Voici le commentaire de Bernard Drainville.
Monsieur Drainville, mes hommages ce matin.
Bonne année!
Ben, bonne année. On a-tu le droit encore le 13 janvier? Oui.
Je pense qu'on a le droit jusqu'à la fin du mois.
Il y a des règles. Il y en a qui disent c'est le 5, il y en a d'autres qui disent c'est le 10, wow. Après ça le 15, les deux premières semaines, hey. Jusqu'à temps qu'on voit quelqu'un pour la première fois.
On vit dans un Québec laïque. Oui. On décide.
Exact. Hey, écoute, on va commencer, mais malheureusement, on commence pas l'année du bon pied avec tout ce qui s'est passé. Et là, j'appelle ça la crise du missile et non la crise des missiles. Mais le vol 752 qui a été abattu, notre collègue Martin Thomas vient d'en parler. Écoute, ils ont confondu l'avion avec un missile et c'est pour ça qu'ils l'ont abattu. Alors moi, je pense pas de la diplomatie qu'on a de besoin, c'est des optométristes là, en Iran.
Oui, en fait, ça, c'est l'explication qui a été donnée jusqu'à maintenant. Là, ils craignaient que ce soit une attaque par un missile cruise américain. Écoutez, là, pensez-vous vraiment que le régime iranien va nous dire toute la vérité sur ce qui s'est passé?
Non.
Ben, c'est ça. Puis, tu sais, le Canada a beau vouloir participer à l'enquête, là, puis on a deux enquêteurs qui vont arriver sur les lieux. Soit aujourd'hui, soit demain, là, ils ont obtenu des visas finalement. Il va y avoir au total une dizaine de fonctionnaires canadiens là, qui devraient arriver en Iran. Il y en a déjà trois qui sont sur place. Il devrait en avoir 12 d'ici demain.
Mm-hmm.
Bon, pour participer notamment à l'enquête, mais aussi pour essayer de trouver une manière d'identifier les restes. Parce que là... Vous avez vu l'impact, hein? Vous avez vu à quel point l'impact a été puissant. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, là. Quand arrive un impact comme celui-là, c'est très, très, très difficile de trouver les restes qui vont te permettre d'identifier les corps, là.
Ah non, il y a plus rien. Peut-être la seule nouvelle rassurante, mais pas rassurante, mais... Tu sais, pour les familles qui peuvent peut-être mettre un bombe, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de voir venir, ils n'ont pas eu le temps de stresser. Les passagers à bord, ils sont juste morts sur le coup, ils n'ont rien senti. Là.
Ça, c'est pas clair, Dominique. Les pilotes dans le cockpit, eux autres, seraient morts sur le coup parce que le missile aurait frappé sur le cockpit.
OK.
Mais le reste des passagers, c'est pas clair encore exactement ce qui s'est produit. Puis tu sais, mets-toi à la place des familles. C'est le genre de questions qu'elles ont. Et la seule manière d'obtenir réponse, c'est... que les autorités iraniennes donnent vraiment accès à toute l'information disponible, y compris l'information des boîtes noires,
mm-hmm.
qui ont été en partie endommagées, mais apparemment, il reste quand même, il y a une partie des boîtes noires qui contient de l'information qui pourrait être obtenue. Mais encore faut-il y avoir accès. Alors, évidemment, politiquement, c'est un dossier qui est très complexe. Moi, je trouve que de façon générale, Justin Trudeau puis le gouvernement Trudeau ont plutôt bien géré ça. Au début, il y a eu une espèce de flottement, là. Surtout quand on a su là, qu'il y avait plusieurs dizaines de victimes canadiennes à bord. Là, ça a pris un certain temps avant que Justin Trudeau réagisse. Mais par la suite, on a senti là, qu'il prenait en charge le dossier. Il a fait 3 points de presse. Moi, je lui reconnais le fait qu'il n'a pas attendu que les Iraniens confirment la thèse du missile. Il est allé sur les ondes, il est allé dire aux Canadiens, écoutez, on a des informations de diverses sources qui nous amènent à croire, qui nous amènent à conclure que c'est un missile qui a descendu l'avion. Les Iraniens ne l'avaient pas dit encore à ce moment-là. Ils l'ont confirmé seulement par la suite.
Mais je pense c'était pas mal clair, Bernard. Tu sais, un avion qui explose comme ça en plein vol pour aucune bonne raison, moi, te le dire, j'ai jamais vu ça. Ça fait que, tu sais, il est passé là, d'une pleine ascension à zéro, là, comme s'il avait frappé un mur en plein vol. Et ça, à part un missile, il n'y a pas grand-chose qui peut produire ça.
Non, tu as raison. Mais, puis tu sais, malheureusement, il y a déjà eu des épisodes comme ça par le passé.
Mm-hmm.
Hein, on se rappelle, il y a quand même eu plusieurs avions, des avions civils qui ont été détruits d'une manière ou d'une autre par des forces militaires par le passé. Alors, écoute, je pense que Trudeau, dans les circonstances, gère ça au mieux. Maintenant, c'est un dossier qui est éminemment complexe. Il faut être en contact avec les autres pays qui ont perdu aussi de leurs concitoyens. On parle de l'Ukraine, on parle de la Suède, la Grande-Bretagne, l'Afghanistan aussi. Donc, le Canada agit un peu comme coordonnateur de ce groupe-là pour essayer d'aller au fond des choses. Parce que les familles, Bon, je vous ai parlé du rapatriement des restes. Ils veulent réparation également, là. Ils veulent comprendre, mais ils veulent réparation. Ils ont droit de demander au gouvernement iranien qui a reconnu son erreur, entre guillemets, parce que moi, j'ai encore un petit doute, là. J'ai encore un petit doute, moi, là, sur la thèse de l'erreur, là. En tout cas, mettons ça de côté pour le moment, là. On verra si l'enquête nous en apprend plus. Mais chose certaine, si c'est une famille de victimes, t'as le droit de demander réparation, là.
Absolument, mais là, comment tu vas le faire?
C'est ça. On n'a même pas de relations diplomatiques avec l'Iran. On a rompu nos relations diplomatiques avec l'Iran depuis 2012. Est-ce qu'il va falloir rétablir les relations diplomatiques avec l'Iran pour installer, je te dirais, des canaux plus officiels puis surtout plus efficaces? Parce qu'actuellement, on est obligé de passer par l'Italie ou par la Suisse pour parler aux Iraniens. Là, en ayant des gens sur place, je pense que ça va améliorer les communications. Ça devrait être plus facile d'entrer dans un dialogue avec les autorités iraniennes. Mais tu sais, l'Iran, là, c'est une dictature religieuse, là. Pour le moment, le fait que ce soit dans l'actualité nous donne un certain rapport de force. Ça nous permet de demander des comptes. Mais dès que l'actualité va nous amener ailleurs, j'ai bien hâte de voir, moi. J'ai bien hâte de voir dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ce que les familles canado-iraniennes auront obtenu comme réponse.
Mais je pose la question simplement, si c'était pas une erreur, on a vraiment visé un avion civil, est-ce qu'on espérait qu'il soit rempli de citoyens américains? Et si ça avait été le cas, il se serait passé quoi par la suite? On en serait où si cet avion-là serait rempli de citoyens, était rempli de citoyens américains?
Dominique, quand j'ai su, moi, que c'était un avion dans lequel il y avait plusieurs dizaines de citoyens canadiens, ou canado-iranien, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient la double citoyenneté, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce possible que les Iraniens aient voulu envoyer un message aux Américains en s'en prenant à leurs plus proches partenaires, à leurs voisins du Nord, à leurs principales alliés, dans bien des dossiers, à tout le moins? Ça se peut-tu que ce soit ça le calcul? Bon. Par après, on a appris qu'il y avait beaucoup, beaucoup de citoyens iraniens dans l'avion. Enfin, le groupe le plus nombreux, c'est le groupe des Iraniens. Là, ça, quand j'ai vu ça, je me suis fait voir. Là, je dis quand même, faudrait être tordu en maudit pour tirer un avion dans lequel tes propres concitoyens prennent place. Fait que là, l'espèce d'hypothèse avec laquelle je jonglais, je l'ai comme mis un peu sur le rond en arrière en me disant, là, franchement. Puis là, tu vois ce qui se passe actuellement en Iran. Les Iraniens sont absolument furieux. Et puis, il y a des manifestations assez importantes là, contre le régime. Là. T'sais, cette affaire-là est en train de se retourner contre le régime des ayatollahs, même qui ont tiré avec des vraies balles là, sur certains manifestants. Bon, fait que, avec le recul et avec tout ce qu'on sait, je pense que c'est probable, pas certain, mais probable que ça n'a pas été que ça n'a pas été commandé par les autorités iraniennes, bon. Par le gouvernement iranien. Est-ce que quelqu'un à l'intérieur des services de sécurité, à l'intérieur des gardes révolutionnaires, est-ce qu'une cellule, un groupe aurait pu vouloir faire payer à des Occidentaux l'attaque contre leur général? Est-ce qu'il y avait une forme de représailles là-dedans? Peut-être pas approuvée officiellement par les dirigeants de l'État iranien. Je ne sais pas si on n'aura jamais la réponse à cette question-là.
Exact.
Mais en tout cas, entre-temps, on va espérer que le gouvernement de Justin Trudeau va continuer à soutenir les familles, parce que je ne sais pas si vous avez vu les photos, là, mais écoute, c'est des jeunes couples, c'est des jeunes... les victimes, là, d'abord, tu as beaucoup d'enfants, mais tu as aussi des gens dans la trentaine, des étudiants qui étaient ici à Montréal ou qui travaillaient chez Bombardier, des travailleurs de chez Bombardier. Ah,
les travailleurs iraniens, généralement, c'est des ingénieurs, c'est des profs d'université, c'est des gros jobs.
C'est des scientifiques, ouais. Exactement. Alors, c'est une grosse perte, là. C'est une grosse perte. Ouais. Et donc, on va espérer que le gouvernement ne va pas les laisser tomber quand l'affaire va disparaître, quand elle ne fera plus les manchettes de nos médias. Voilà.
Parlons de François Legault qui va commencer son année politique à Terre-Neuve, à Saint-Jean aujourd'hui. Est-ce qu'il sera question de barrage hydroélectrique, de négociation ou autre?
Certains. On m'a dit qu'ils ne sont pas sur le point d'en arriver à une entente, là, Mais vous savez, Terre-Neuve, ils ont un gros problème, hein? Ça s'appelle Muskrat Falls, c'est au Labrador, dans la partie terre-neuvienne du Labrador, pas bien loin de chez vous.
Mm-hmm.
Et puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y avait une centrale qui devait être construite au coût de 7 milliards. Et puis là, ils sont rendus à 14 milliards. Comprends-tu que
c'est plus trop
le même montage financier rendu là, là? Les tarifs hydroélectriques de Terre-Neuve vont doubler. Les Terre-Neuviens vont doubler à cause, justement, de ce fiasco financier. Et là, ce que je comprends, là, parce que j'ai un peu de misère à avoir là, juste là-dessus, mais à force de parler, à un moment donné, tu finis par avoir un portrait assez précis de la situation. Ce que je comprends, c'est que les Terre-Neuviens aimeraient ça que le Québec, que Hydro-Québec devienne une sorte de partenaire financier dans Muskrat Falls pour absorber une partie, justement, du dépassement. Là.
Okay.
Qu'on devienne... Bon, en échange de quoi? Bon, bien là, c'est ça, là. Vous rappelez qu'on achète du courant, nous autres, bonbon pas cher, d'une autre centrale, Churchill Falls.
Oui, et ce contrat-là se termine dans les années 2025, dans ce coin-là, 2030?
Non, 2041.
2041, bon.
Mais c'est demain matin, ça, 2041,
oh, ouais.
Là. Tu sais, puis c'est une grosse quantité de courant qu'on achète, qui est une source de profit incroyable pour Hydro-Québec. Et moi, ce que j'entends, là, entre les branches, c'est que Terre-Neuve aimerait ça, là. Qu'on devienne peut-être, qu'on les aide financièrement avec la centrale de Muskrat qui a coûté 14 au lieu de 7 milliards et qu'en échange, ils seraient ouverts peut-être à une négociation autour du contrat qui vient en échéance en 2041, là. Quelque chose comme ça, là. Bon. En tout cas, ça va pas se régler demain matin pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas besoin du courant de Muskrat Falls. Actuellement, nous autres, on est en surplus au Québec. Mais ouais. on a réussi quand même. Puis donc, l'année de Legault a bien commencé parce que vendredi, on a appris qu'Hydro-Québec avait signé une entente avec le Nouveau-Brunswick. On va leur exporter pour 20 ans, là, pendant 20 ans, jusqu'en 2040. Bon, 47 TWh, ça veut rien dire. Mais si je vous dis 2 milliards sur 20 ans, ça commence à être plus intéressant.
C'est de l'argent.
Bien, 100 millions par année, Dominique, on va le prendre.
Ben absolument.
C'est du courant. Puis c'est du courant qu'on a actuellement en trop. Et l'avantage, évidemment, c'est que ce courant-là, c'est du beau courant vert, c'est du courant propre. Alors, le Nouveau-Brunswick est preneur, mais ce qui est bien intéressant, le contrat qui serait pas mal plus payant, c'est celui avec la Nouvelle-Écosse. Parce que la Nouvelle-Écosse, ils ont encore des centrales au charbon. Ils ont 8 centrales au charbon. Ils se sont engagés à les fermer d'ici 2035. Comprenez qu'ils ont besoin de courant pour remplacer l'électricité produite par ces centrales au charbon.
Oui.
Et dans le deal qui a été annoncé vendredi entre Hydro-Québec et le Nouveau-Brunswick, il y a l'exportation de courant vers le Nouveau-Brunswick, 2 milliards sur 20 ans que ça va nous rapporter. Mais il y a aussi, si vous regardez le communiqué, le point 3, des discussions pour construire des interconnexions. Donc, dans le fond, des lignes entre le Québec et le Nouveau-Brunswick qui nous permettraient de vendre du courant aux Américains en passant par le Nouveau-Brunswick, mais qui pourraient nous permettre aussi de vendre du courant à la Nouvelle-Écosse.
Et le plan de Legault, il l'a toujours dit, on va faire du Québec la batterie verte de l'Amérique du Nord.
Bingo! C'est pour ça que Legault, ça commence bien son année. Un deal vendredi avec le Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, écoutez, c'est la première fois qu'un premier ministre québécois est invité à la réunion des premiers ministres des 4 provinces de l'Atlantique. C'est jamais arrivé. Puis là, donc, il est à Terre-Neuve. Il a rencontré M. Ball, c'est Dwight Ball, le premier ministre terre-neuvien. Ils sont rencontrés au bureau de M. Ball, la législature terre-neuvienne. Puis aujourd'hui, il rencontre les 4 premiers ministres de l'Est. Et puis donc, il va être question d'énergie et tout le reste. Et puis tout ça s'inscrit, comme tu le dis bien, dans cette espèce de vision de faire du Québec la batterie d'énergie verte.
Oui.
De l'Amérique, de l'Est de l'Amérique du Nord, tu sais, de toute la côte Est, en commençant avec les provinces atlantiques, en descendant vers le Massachusetts, puis vers New York, et tous ces États ou ces villes américaines vers lesquelles on espère vendre du courant, exporter du courant dans les années qui viennent. Fait que, puis tu sais, l'année 2020, c'est supposé être l'année de l'environnement pour la CAQ. Parce que là, dans les prochaines semaines, alors, je dis environnement parce que tout le courant qu'on exporte, le courant vert, l'énergie verte, ça permet de fermer des centrales au charbon, des centrales au gaz, etc. Donc, c'est bon pour l'environnement. Et puis, ils vont déposer dans les prochaines semaines leur plan pour lutter contre les changements climatiques. Puis, ils vont déposer également leur plan pour établir une consigne sur le verre et le plastique. Donc, l'année 2020 va être une grosse année pour l'environnement à la CAQ.
Absolument. Ça va être à suivre. Et écoute, la Fondation Rivière n'en fera que plus de conférences de presse.
Bien là, la Fondation Rivière, écoute, moi, je vais te dire, s'il fallait qu'on vende du courant, mettons qu'on en viendrait à une entente avec la Nouvelle-Écosse pour le vendre du courant quand ils vont fermer le central au charbon, puis que le deal avec le Massachusetts se règle, parce qu'eux autres, c'est quand même 10 TWh, c'est 10 milliards. Là.
C'est de l'argent. Là.
C'est de l'argent, petit pépère. Sauf que là, il faut que ça passe par le Maine, puis là, ça a l'air que le Maine s'en va en référendum là, sur la construction des lignes, là, parce qu'il y a des opposants, il y a toujours des opposants. Et la ligne qui servirait à descendre le courant du Québec vers le Massachusetts, vers Boston et tout ça, bon, ben cette ligne-là passe par des forêts, par des territoires ruraux dans l'État du Maine. Puis là, ben t'as des gens qui défendent la nature, puis l'environnement, puis les clubs de motoneigistes, puis tout ça, qui disent « Vous allez scraper nos montagnes. » Fait qu'on veut un référendum. Et puis là, il manque une dizaine de milliers de signatures pour qu'il y ait un référendum. Ils ont jusqu'au début février, si je me trompe pas, pour ramasser signature. D'après moi, ils vont y arriver. Ah. Fait que si ça s'en va en référendum, puis ça passe pas, ben là, le contrat du Massachusetts pourrait tomber à l'eau parce qu'on sera pas capable de construire les lignes pour l'amener au Mass.
Oui, il y a toujours quelque chose. Mais les allumeurs de réverbères font dire « Tenez bon, nous aussi, on s'est battu pour nos jobs. »
Oui. Mais tu sais, il va falloir à un moment donné...
Il faut avancer, là. T'sais...
Mais non, mais il faut choisir nos batailles. Moi, ben, je dis, je veux dire... Vous pouvez pas d'un côté dire les gaz à effet de serre puis le réchauffement climatique, c'est le grand défi environnemental de notre temps. Puis quand on propose de vendre du courant propre qui va diminuer les gaz à effet de serre en faisant fermer des centrales au charbon puis au gaz, vous pouvez pas aller dire que vous êtes contre. Tu sais, je veux dire, là, Simonac, là, à un moment donné, choisissez vos batailles. Et moi, je dis aux environnementalistes, tu sais, on a intérêt, nous autres, et sur le plan de l'environnement, et sur le plan de l'économie, à exporter notre énergie. C'est bon sur les deux plans. Aidez-nous. Ah, arrêtez de nous mettre le bâton dans les roues. T'sais?
On s'entend. Bernard Drinville, merci beaucoup. On se reparle jeudi.
Salut.
Salut. 8h31.
Kick 95.7. Voici le commentaire. Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick Saguenay.